Vous êtes bien sur la radio Cause Commune 93.1 sur la bande FM. Nous avons procédé le samedi 24 janvier 2026 à la captation des échanges, des débats, des tables rondes dans le cadre des assises de l'attention organisées à Paris par le collectif du même nom, collectif Attention à la Bellevilloise, dans le 20e arrondissement. Peut-être avez-vous déjà entendu la table ronde numéro 1, celle concernant les relations des jeunes aux écrans et au numérique au sens large, aux réseaux sociaux, etc. Et là, cette seconde partie concerne des témoignages de 4 personnes, enseignants et ou créateurs d'initiatives concernant les relations qu'ont les jeunes toujours avec les écrans, avec le numérique. Et puisque eux et elles sont arrivés avec ces outils, ces objets qui sont entrés dans leur vie tout de suite ou quasi tout de suite. Voilà, je vous laisse en compagnie de ces personnes. Bonne écoute, à bientôt.
Nous allons maintenant découvrir plusieurs témoignages d'initiatives porteuses d'espoir. C'est une tradition aux Assises de l'Attention. Nous souhaitons mettre en avant la vitalité de la société civile. J'invite à nous rejoindre Agnès Fabre, Caroline Deloz, Eneko Jorajuria et Diego Hidalgo. Nous remercions Rachel Petit, coordinatrice de Lève les yeux à Bordeaux depuis 4 ans, d'avoir accepté de faire la modération. Et du coup, la pause sera à la fin de cette table de témoignages d'initiatives porteuses d'espoir.
Alors, on va attendre peut-être que Caroline... Ah ben, elle est là. Bonjour à toutes et à tous. Merci à nos 4 intervenants de nous faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Et merci à Floriane pour ses propos liminaires. Effectivement, au-delà des constats, il y a des initiatives qui s'organisent sur les territoires, porteuses d'espoir parce qu'elles favorisent la mobilisation, parce qu'elles émanent de collectifs, de mouvements différents, que ce soit du domaine de l'éducation ou des parents également. On va évoquer tout ça. Et également, celles et ceux qui sont à côté de moi et qui incarnent ce formidable mouvement de mobilisation va aussi nous permettre, au cours de cet échange, de répondre au fil rouge de la journée, que peuvent faire les villes. Alors je vais présenter ceux qui sont à mes côtés. Agnès Fabre, vous êtes professeure de lettres et vous êtes cofondatrice du collectif Éducation numérique raisonnée, qui promeut un usage réfléchi des outils numériques à l'école. Nous y reviendrons. Diego Hidalgo, vous êtes enseignant. Non. J'ai tourné trop vite. Pas du tout. Diego Hidalgo, vous êtes fondateur du mouvement OFF et vous êtes auteur de 2 essais que l'on peut retrouver à la librairie Kinombo aujourd'hui. Anesthésie de l'humanité sous l'emprise de la technologie, qui a été publié en 2022, et également Reprendre le contrôle, qui a été publié plus récemment en 2024. Là, cette fois-ci, tout va bien. Eneko, je tourne la page. Eneko, vous êtes donc enseignant et vous êtes également fondateur de l'association Le Défi 10 jours sans écran, qui a été du coup une association qui a été montée en 2018, et vous le coordonnez au niveau national, et on va voir un petit peu de quoi il s'agit plus précisément. Et donc Caroline Deloz, vous êtes de Plaisance, voilà, c'est ça, vous êtes cofondatrice d'Attentive Génération. Je me tourne vers vous, Agnès Fabre. Vous avez donc monté ce collectif qui regroupe plus d'une dizaine d'enseignants, également de personnel de direction. Vous alertez sur l'impact du numérique à l'école. Un des objectifs affichés, c'est aussi de partager la réalité du terrain. Quelles ont été vos observations ?
Alors notre point de départ, ça a été les constats qui ont été dressés à la table ronde précédente. L'impact du numérique d'abord récréatif sur les élèves qu'on a dans nos classes, à tous égards, enfin, du point de vue de la santé physique mais aussi mentale, la fatigue, les difficultés de concentration. Et puis, ce que disait Arnaud tout à l'heure, c'est l'introduction massive du numérique qui s'est faite sans cadre, de manière, enfin, qui nous a été imposée en fait, sans réflexion préalable, sans concertation, où on a eu l'impression que, au lieu de justement d'aider les familles à réguler un problème qui était déjà dans les foyers, on l'a amplifié en incitant les élèves à se connecter, à utiliser les outils numériques pour faire leurs devoirs en classe et à la maison. Notre constat, quand on s'est créé il y a 2 ans en tant que collectif, ça a été d'essayer de proposer des solutions concrètes. C'était une question qui était posée à la table ronde précédente. Nous, on a formulé des propositions qu'on a à disposition des écoles, mais aussi de l'éducation nationale, pour réguler, pour donner un cadre à ces outils et aussi pour accompagner les parents. Et on travaille beaucoup avec les associations de parents pour que l'école ait une démarche cohérente, en fait, pour pouvoir réguler les outils numériques.
Très bien, merci. Alors, Eneco, nous y reviendrons au cours de cette journée. Du coup, comme je le disais en introduction, ces assises, elles sont placées aussi de l'engagement et des actions qui sont portées par les villes. Donc, un des leviers à disposition, c'est le défi du jour sans écran. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Oui, alors je vais vous parler du défi 10 jours sans écran que sans doute beaucoup connaissent déjà, parce que c'est un défi qui existe depuis longtemps. Il s'appuie sur un travail de beaucoup de personnes depuis les années 90. Je pense à Jeanine Busson ou Jacques Brodeur. Nous, on s'est appuyé sur le travail de Jacques Brodeur. Alors moi, personnellement, j'ai connu le défi un peu sur le tard, il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Et je suis enseignant dans une école au Pays Basque et on a trouvé cette expérience tellement formidable, on va dire. Et c'est une expérience éducative qui nous semblait vraiment répondre à un enjeu de plus en plus prégnant dans la société. C'est un dispositif qui répond vraiment à une question de plus en plus importante sur la question de la place des écrans. On a décidé d'en faire la promotion en s'appuyant sur ce qui est déjà fait pour en proposer un défi collectif. Alors le défi collectif, il a démarré en 2018. On a dit tout ce qu'ils veulent faire en défi 10 jours sans écran, on pourrait le faire en même temps au mois de mai. On a proposé des dates et puis tout le monde pouvait s'inscrire, donc ça concerne les écoles, puis on l'a ouvert aux crèches aussi. Alors, quand je dis école, ce sont les établissements scolaires, et puis chaque année le défi a grossi. On est parti de 35 écoles et crèches en 2018, et puis chaque année on a renouvelé puisqu'on battait le record, et l'année dernière on est arrivé à 800 établissements en tout, ce qui a représenté 120 000 élèves. Donc c'est vraiment une mobilisation qui part du bas, du terrain, et qui grossit chaque fois. Et on en est très content. Alors, le défi 10 jours sans écran, ça consiste à mettre au défi les élèves d'une école, d'un collège, donc des enfants et des adolescents, à se passer autant que possible des écrans de loisirs pendant 10 jours. Alors ça dure 10 jours, mais en tout le dispositif il dure bien plus longtemps puisqu'il y a toute une préparation en amont qui dure plusieurs semaines, plusieurs mois, et puis il y a aussi le bilan qu'on fait après le défi. Donc c'est un dispositif d'éducation à la réduction du temps d'écran. Et qui permet vraiment à des enfants, des adolescents, et on impacte aussi les parents, du coup, les familles, à se questionner sur les habitudes quotidiennes, la place des écrans. On sait, les enfants passent depuis bien longtemps déjà plus de temps devant les écrans de loisirs qu'en classe, donc on sait les répercussions que ça peut avoir. Nous, on parle beaucoup de sédentarité parce que c'est vraiment le plus évident. Passer autant de temps assis, couché devant un écran, c'est beaucoup de sédentarité et ça a vraiment un impact sur la santé physique. Et puis ensuite, on peut parler de la santé, le sommeil, la santé mentale, tout ça, tout ce qui en découle. Et donc, à partir de là, on arrive à... Alors, ça peut paraître étonnant, mais on arrive à enrôler des enfants, des adolescents, à vouloir s'engager activement, et même très activement, dans ce défi. d'éteindre les écrans pendant 10 jours. Et puis par ce dispositif de préparation en classe avec les enseignants, mais aussi en impliquant tous les adultes autour des enfants, c'est-à-dire les parents qui vont s'impliquer avec les enseignants pour concevoir un programme d'activité bénévolement, gratuitement pendant ces 10 jours en dehors du temps scolaire. On va impliquer aussi les associations et puis quelquefois les communes s'impliquent, les communautés de communes. Et puis ce qui fait que y a les champions sportifs qui vont venir encourager les enfants. Il y a toute une méthodologie qu'on leur propose avec des points à gagner. On leur dit qu'on va essayer de gagner le plus de points possible contre les écrans ou les personnes qui travaillent derrière les écrans pour nous garder le plus possible captifs derrière les écrans. On se prépare au défi comme on se prépare à un match. On va jouer contre des adversaires redoutables. On leur parle du défi comme d'un exploit olympique. Et c'est vrai parce que le défi, c'est vraiment difficile. Plus on avance dans les années et plus réussir le défi est difficile. Et donc on valorise tout leur engagement. Il y a toute la préparation en amont qui va faire que les enfants ils vont commencer à se poser des questions sur leur propre utilisation, les conséquences que ça peut avoir sur leur santé physique, leur santé mentale, leur avenir proche, lointain. Et puis ils vont, au fur et à mesure que le défi approche, ils vont bien sentir que c'est une opportunité de prendre un petit peu en main ses propres habitudes et puis son avenir. Les parents sont tout à fait favorables, ils se saisissent de cette opportunité pour dire c'est vraiment une occasion pour remettre à plat la place des écrans à la maison, rediscuter des règles, etc. Donc ils sont vraiment partants, et ce qui fait qu'on a un enthousiasme très fort autour de ce défi. Les enfants, on en reparlait encore il y a le mois dernier, ce qu'ils ressentent souvent, c'est qu'ils disent moi ce que j'ai trouvé, il y a une fierté, et puis ils ressentent des bénéfices aussi. Ils disent que souvent ils disent moi ce que j'ai vraiment aimé, c'est que j'ai passé beaucoup plus de temps avec mes parents. Voilà. Et ça c'est vraiment quelque chose qui leur plaît. Les parents ils disent nous on se sent soutenus dans notre travail éducatif, on se sent renforcé dans notre capacité à mieux maîtriser la place des écrans au quotidien. Et donc il y a vraiment autour de ce défi quelque chose de vraiment intéressant qui peut être développé. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire ça avec pas beaucoup de moyens, avec un peu de volonté. Jacques Brodeur disait, c'est une affaire d'école, de famille, de communauté, et c'est à nous de passer à l'action. C'est-à-dire que la philosophie, c'était de dire déjà il y a plusieurs décennies, n'attendons pas que les pouvoirs publics prennent des décisions en notre faveur, n'attendons pas que la preuve ultime des méfaits de la surexposition aux écrans soit établie. Commençons à proposer quelque chose, et c'est vraiment l'esprit du défi collectif. On commence sur le terrain avec les acteurs du terrain, on propose un défi dans notre école, et puis ça fait tache d'huile, et de plus en plus d'écoles le proposent, et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à 120 000 enfants l'année dernière. On pense qu'on va impacter plus d'enfants encore cette année.
Merci Nico. On va tout de suite apporter un correctif. C'est bien Caroline de Plaisance et non comme Caroline Delos qui a été présentée tout à l'heure. Alors vous êtes cofondatrice d'Attentive Génération. On va parler des pactes smartphone et des pactes comment grandir mieux sans smartphone. De quoi s'agit-il, Caroline?
Merci Rachel. Alors dans plus de 30 pays au monde, et je pense davantage, mais en tout cas 30 sur, les parents, face au dilemme qui est de voir la force de la pression de groupe sur leur enfant pour avoir un smartphone, se réunissent autour de solutions collectives, donc en France aussi. Mais l'idée est donc de se rassembler pour décider ensemble qu'on ne va pas donner de smartphone à notre enfant. C'est très très basique. On recule parfois juste d'une année sur l'autre, en se mettant d'accord localement, et classe par classe, établissement par établissement. Donc, ça suppose déjà d'arrêter l'omerta sur le sujet. Et l'événement auquel on est rassemblés aujourd'hui pour ça, mais école, dans les écoles, les parents n'abordent pas le sujet facilement. Donc, de plus en plus de parents font en sorte qu'il y ait des cafés des parents, un dialogue avec les équipes éducatives, avec les chefs d'établissement, pour que déjà on en fasse un sujet dont on parle, et ensuite en parlant et en lançant par exemple des défis, en faisant des conférences, des ateliers, on amène davantage de parents au constat que oui, on peut décider finalement de ne pas donner un smartphone, on n'y est pas forcé, même pas par les ENT. Si 25% des enfants d'une classe n'en ont pas, alors notre enfant va se sentir moins isolé. À partir de 25%, vraiment, on est au seuil de basculement. Donc l'idée, c'est que plus nombreux on est à le faire, bien sûr, plus ça va permettre de libérer nos enfants. Alors, il y a des seuils, pardon, j'enchaîne là-dessus, je sais pas, tu me dis, hein, mais... ça fait 2 ans en France que des pactes sont signés par des parents. L'initiative, elle est née en Bretagne. 5 parents qui se sont réunis autour du constat que je viens de vous exposer et qui se sont dit, OK, on va faire ça dans notre coin, à Béton, une petite ville, donc à côté de Rennes. Et puis après, ils se sont dit, on va mettre ça sur change.org et on va proposer à d'autres parents ailleurs de faire la même chose. Et puis petit à petit, de plus en plus de parents qui cherchaient ça nous ont rejoints, tous bénévoles, et à agir et à tester des façons de sensibiliser les chefs d'établissement les uns et les autres et d'agir. Et on s'est organisé maintenant dans une association en réunissant 2 collectifs. Le collectif qui s'est formé autour de ces pactes et un autre collectif qui s'est formé autour de l'urgence de sensibiliser, puisqu'il y a tous les parents qui sont déjà conscients et qui veulent les pactes, et puis il y a les autres qui ont besoin de tout un trajet. Je parlais des défis, mais il y a bien d'autres choses, ne serait-ce que commencer par les 4 pas. Et donc on a commencé à créer des outils gratuits, et puis bien sûr à recommander les associations qui sont sans lien avec l'industrie, pour qu'il n'y ait pas des doubles discours dans les écoles. Et pour l'instant, il y a des associations qui ont beaucoup de salariés et qui viennent dire aux parents, laissez faire, regardez faire, faites avec et faites quand même autre chose. Donc, quand des parents qui sont anxieux, là c'est bien au-delà du smartphone, hein, par rapport au numérique, entendent de tels discours et reviennent chez eux, ils reviennent avec le même problème. Et en ce moment, enfin, donc on s'est rendu compte, nombre de parents qui nous rejoignent se rendent compte qu'il y a vraiment un problème de, le mot est venu tout à l'heure, de cohérence par rapport au sujet. Donc en fait, l'œuvre de bon sens qui est d'avoir un discours commun, le défi est une occasion géniale justement pour que les enseignants, enfin que tous les adultes autour des jeunes aient le même discours. C'est une des... Pardon, ma phrase n'est pas... Je ne sais pas si le sens passe. C'est vraiment fondamental en fait qu'on dise la même chose, quoi. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc les parents débattent. Il faut surtout pas passer pour anti-nouveauté. On va dire, et dans plein d'endroits, on sent que ça freine. Que bien sûr, et ça a été évoqué par Arnaud Lévy tout à l'heure, il y a un immense problème entre les niveaux sociaux, et on a parlé par exemple à des cités éducatives où on nous dit non, vous, vous, on, personne parmi les parents n'est prêt encore à entendre ce que vous avez à dire. Et on va plutôt, dans notre effort de sensibilisation, là je parle de cette cité éducative, auprès de plein d'écoles, offrir aux parents une application pour limiter le temps d'écran de leurs enfants, plutôt que faire travailler les enfants sur leur propre conscientisation des choses. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'actions auprès des parents actuellement, qui amène exactement l'opposé de ce à quoi on veut arriver. Donc notre idée, c'est de coopter toutes ces associations libres de l'industrie qui œuvrent dans le même sens, de rassembler autour de ces solutions collectives, qui sont donc un parcours de sensibilisation sensé et les pactes. Et on fait aussi œuvre de plaidoyer avec les fondateurs des mouvements de parents de l'Union européenne. Il y en a une quinzaine. On a répondu à une consultation de la Commission européenne l'année dernière, mais là on veut faire d'autres actions de terrain et puis surtout mettre en commun nos outils, parce que voilà, on œuvre pas avec beaucoup de moyens, d'où aussi le fait de s'organiser en asso et d'essayer d'avoir plus de moyens pour faire plus. Mais on veut mettre en commun nos expériences et nos outils, et on se rend compte que ça fait bouger. Vous voyez, en Australie, c'est Heads Up Alliance qui est l'organisation des parents, alors qui s'est formée surtout par des familles de victimes, qui a amené la loi. Alors ils disent eux-mêmes, et je finirai là-dessus parce que je prends trop la parole, mais ils disent eux-mêmes, hein, Danny Elachi, qui est le fondateur, que cette loi qui est passée en décembre n'a de sens que comme sensibilisation des parents. Donc voilà, par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement, et il fait beaucoup parler du sujet, c'est en France... on n'a pas, nous parents, d'attente par rapport à cette loi, à part que ça permet de faire parler du sujet. C'est pas possible de mettre en place aujourd'hui une interdiction, une limite sur les réseaux sociaux, c'est très compliqué. Donc on pense que ces solutions collectives très très locales sont la priorité par rapport au sujet. Ça veut pas dire qu'il faut délaisser le législatif, mais voilà.
Merci Caroline. Je me tourne vers Diego Hidalgo. Il y a 2 ans, vous étiez déjà invité aux précédentes assises. On évoquait le manifeste. C'est quelque chose aussi qu'on a évoqué lors de la première table ronde, avec un diagnostic partagé autour de l'exploitation des vulnérabilités. Et c'est ce que vous mettiez en avant dans ce manifeste. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire quelques mots?
Merci beaucoup. Très heureux d'être ici à vos côtés. Donc le manifeste OFF, qui a été lancé en février 2024 et qui a été le début de notre mouvement, le mouvement OFF, est un texte qui a été depuis signé par à peu près 500 personnalités experts dans le monde de tout domaine, beaucoup de médecins, d'artistes, de chefs d'entreprise, de juristes. Vraiment tout un tas de disciplines sont représentées, et il lance un message d'alerte à la population, ce manifeste OFF, sur... Le point critique auquel nous sommes arrivés vis-à-vis de notre relation à la technologie numérique, une technologie qui, comme on l'a décrit, est de plus en plus conçue et déployée pour exploiter les vulnérabilités humaines. Et c'est une invitation à reprendre le contrôle de cette technologie numérique pour qu'elle soit au service de l'humain et non au contraire. Et comme on l'a vu, c'est souvent ce qui est en train de se passer maintenant. Mais au-delà de ça, c'est aussi un programme d'action. On ne voulait pas que ce soit juste un texte. C'est un texte qui est vraiment vivant. Et le but du mouvement OFF, c'est justement d'identifier des facettes de notre existence où on considère qu'il y a un décalage particulier entre la façon dont le numérique est en train d'être déployé et conçu et les intérêts humains. Et on soit aussi capable de trouver des façons d'agir, des façons justement de réaligner l'humain sur, la technologie sur les intérêts humains. Notre campagne qu'on est en train de lancer, ça va être la première édition mondiale et qui devient centrale pour notre mouvement, c'est OFF February, donc février OFF, qui émule un peu le Dry January, mais version numérique, qui est fondée sur un défi simple au niveau mondial, qui consiste à désinstaller ses applis de réseaux sociaux de son smartphone pendant 28 jours. Donc, on n'est pas en train de dire aux gens « supprimez vos comptes », on ne veut pas que la barrière à l'entrée soit trop élevée, on sait que pour certaines personnes, ce serait tout de suite dissuasif. On ne dit même pas aux gens arrêter complètement d'être sur les réseaux sociaux, puisqu'on peut techniquement y accéder à travers un navigateur, notamment pour des usages professionnels quand on n'a, entre guillemets, pas le choix. Mais on veut briser ce pont vers une utilisation de plus en plus impulsive et non intentionnelle de plateformes qui, en France, sont en train de cannibaliser en moyenne 55 heures de la vie des personnes. Autant de temps qui n'est pas dédié à d'autres activités qui sont très favorablement corrélées à notre bien-être. Donc ce temps passé sur les réseaux, si on regarde tout à fait empiriquement, ce n'est pas du tout des suppositions philosophiques, il a empiété sur l'activité physique, on l'a mentionné tout à l'heure, sur aussi la socialisation. Si on regarde plein d'indicateurs dans différents pays, les gens se voient moins d'amis, pas seulement les jeunes. Les gens passent de plus en plus d'heures seuls. Il y a moins en moins de regards, de conversations comme ça, que ce soit entre deux personnes ou plusieurs. Mais ils ont aussi empiété, on l'a mentionné, sur notre sommeil et sur tout un tas d'activités en fait quotidiennes, que ce soit la cuisine, que ce soit ne rien faire. Bah, toutes ces activités, en fait, elles sont meilleures pour nous que d'être en train de scroller de façon sédentaire, généralement solitaire, sur un canapé. Donc Off February, c'est vraiment une invitation à réinvestir une bonne partie de ces dizaines d'heures, pendant un mois d'abord, dans ces autres activités qui nous sont favorables. Et c'est un mouvement qu'on a souhaité qu'il soit global, une initiative qu'on a souhaité globale dès sa première édition qui commence donc dans une semaine, parce qu'on pense qu'on est face à un problème global. Si on regarde toutes ces études qui avant servaient souvent à comparer des pays, on voit que toutes les tendances qu'on a déjà évoquées, notamment dans la précédente table ronde, de problèmes de santé mentale, d'anxiété, de dépression, de troubles de l'alimentation, etc., qui, comme on le sait, sont non seulement corrélés, mais on sait qu'il y a maintenant un lien de causalité évident entre l'hyperconnexion et cette détérioration de la santé mentale, eh bien, ces tendances, elles sont très similaires dans tous les pays. Donc, on a voulu que ce soit une initiative globale qui est portée par le mouvement OFF, mais aux côtés de 55 organisations dans le monde, dont une douzaine en France, je crois, un certain nombre qui sont représentés ici, que ce soit Attentive Génération, ENR, bien sûr, Lève les yeux, le CAUSE, Alerte Écran, j'en oublie sûrement qui font partie directement du collectif Attention, mais on a aussi des institutions comme le CNL ou la ville de Marseille, vraiment de tout type qui sont des partenaires de February en France. Et même si on est globaux, cette année, il y a beaucoup d'organisations, surtout aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, en France, et puis après, il y en a un peu partout. Donc voilà, je vous invite à consulter le site de Off February, vous inscrire, parce qu'il y a aussi une étude d'impact après pour voir comment ça a fonctionné, quel a été l'impact sur la santé mentale, sur le bien-être des participants.
Alors, on va maintenant évoquer justement ce que les villes peuvent faire, comment les initiatives elles peuvent se porter. Vous avez fait une charte et vous avez proposé des mesures concrètes à l'intention de la communauté éducative, des établissements scolaires. Vous vous appuyez aussi sur d'autres initiatives qui sont portées par les intervenants que nous voyons ici. Est-ce que ça, vous pouvez nous en présenter un petit peu?
Oui, bien sûr. Alors, en fait, on a travaillé sur des propositions concrètes. Je vais y revenir un peu plus. Déjà, puisqu'on est dans les initiatives porteuses d'espoir, je pense qu'il y a de l'espoir dans la question du numérique à l'école, parce que c'est possible de revenir en arrière. Et quand on a créé le collectif, on entendait très souvent, en fait, il faut vivre avec son temps, l'école doit être moderne, etc. Des arguments qui sont assez creux pour justifier justement l'introduction du numérique. Et la prise de conscience actuelle est telle qu'il y a une vraie réflexion qui arrive un peu trop tard, un peu après coup, mais qui se met en place dans les établissements et qui est suivie d'actions concrètes vers un cadrage plus strict du numérique. Concrètement, notre angle prioritaire, et on rejoint enfin, le collectif Attention, cette recommandation, c'est d'éviter d'équiper les enfants avant 15 ans de smartphone. Et donc en ce sens, l'école peut vraiment aider en supprimant tout simplement les comptes, les ENT, au collège. C'est simple, c'est facile, on en a parlé tout à l'heure, on n'a pas besoin de cet outil numérique, il suffit de revenir à l'agenda papier, que les élèves soient responsabilisés à nouveau, qu'ils prennent des notes en classe, et puis d'éviter justement de renforcer l'anxiété des élèves, que ce qu'on constate un effet pervers du numérique, avec les enseignants qui peuvent potentiellement donner du travail à faire en dehors des heures des cours, à tout moment, ajouter des notes sur les ENT où les élèves, parfois les parents découvrent la note avant l'élève, avant qu'on lui ait remis la copie, paramétrer strictement ces outils en supprimant les comptes, l'accès aux élèves au collège, et puis en ayant un paramétrage strict, notamment pour avoir un affichage, non pas en temps réel, ça apporte absolument rien sur le plan pédagogique, mais de manière ponctuelle. On a un exemple concret, notamment grâce à Clémence Ababa, qui est membre du collectif Éducation numérique raisonnée, qui enseigne dans un établissement public, un collège du 14e arrondissement à Paris, et qui a mené un travail énorme avec sa proviseure et les autres chefs d'établissement des collèges de l'arrondissement. Donc ça, c'est intéressant, parce que c'est au niveau de l'arrondissement. J'ai un exemple d'une charte de déconnexion qui est proposée, charte du bien-être numérique, proposée à l'ensemble des parents de tous les collèges publics du 14e arrondissement à Paris, où il y a un vrai travail de sensibilisation, où l'école propose aux parents de signer cette charte. Je suis parent, je souhaite coopérer avec le collège de mon enfant et je m'engage à ne pas confier de smartphone à mon enfant à l'entrée au collège, au moins jusqu'à la 4e. Et si c'est le cas, je m'engage à suivre un certain nombre de règles, utiliser un outil de contrôle parental, de supprimer le smartphone la nuit. Enfin, il y a énormément d'indications avec des raisons concrètes, des raisons, tout l'argumentaire qu'on connaît, qui sont apportées aux parents. Et ce qui est intéressant dans cette charte, qui est un des outils que nous, on a mis en place avec ENR, c'est la réciprocité, c'est l'engagement en contrepartie de l'école de ne pas utiliser les outils numériques, en supprimant justement la connexion à Pronote. Et ça impose une certaine, enfin ça contraint les enseignants à une certaine forme d'exigence, en effet, d'anticiper si on a besoin d'utiliser les outils numériques pour prévoir que les parents puissent accompagner leurs enfants. En fait, le principe clair, c'est qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que les enfants sont en danger dans l'espace numérique s'ils sont seuls, s'ils ne sont pas accompagnés. Donc il faut éviter qu'ils doivent se connecter au moins avant 15 ans. C'est un seuil qu'on considère clair, jusqu'à la fin de l'entrée en collège, que les parents doivent avoir conscience qu'ils ne peuvent pas laisser les enfants se connecter seuls sur Internet. Et évidemment, comme ils ne sont pas toujours là pour accompagner les enfants au moment des devoirs, il y a cette responsabilité de l'école de ne pas introduire dans les foyers cette nécessaire connexion. On a d'autres propositions clés aussi, parce que le droit à la déconnexion, on considère que justement les élèves doivent avoir, alors au-delà de justement du collège, doit avoir des temps de déconnexion pendant des plages horaires où ils ne peuvent pas avoir accès aux ENT, à l'outil numérique, ce qui est reconnu en entreprise, qui n'est pas reconnu à l'école. Et puis un principe clé également qui est de faire du numérique un outil complémentaire. Et ce qu'on constate à l'école, c'est comme dans le numérique récréatif, où quand vous donnez un outil numérique à un enfant, il prend tout son temps. Vous avez un enfant curieux qui aimait lire, qui joue au foot, en fait il a son smartphone, un désintérêt complet en fait, très, très fréquemment de la vie réelle. Dans la sphère éducative, c'est pareil, le numérique a une capacité d'absorber énormément et un impact direct sur le lien au livre, sur la lecture et sur l'écriture. Et ce qu'on constate, c'est que en fait, à l'école aussi, on lit moins et on écrit moins. Et ça, évidemment, avec la question du manuel numérique. Mais on considère que l'école doit s'emparer de ce sujet. Et c'est d'autant plus inquiétant quand Arnaud Lévy montrait que les outils numériques, on a prouvé scientifiquement qu'ils ont un effet négatif sur la compréhension d'un texte, de la lecture d'un texte. La question de la lecture, ça doit être un angle prioritaire. Et pour nous, il ne s'agit pas simplement de limiter l'accès aux outils numériques, de les réguler, mais aussi de réinventer en fait des alternatives. Comment l'école peut réenchanter en fait l'accès à l'enseignement ? Et on a une concurrence énorme. Si on veut réduire cette attractivité de l'outil numérique, des réseaux sociaux, comment donner envie à nos enfants de faire autre chose, d'aimer lire, d'aller dans les musées, se reconnecter en fait au monde réel ? Et je pense qu'il y a un chantier énorme. J'aime beaucoup l'idée du quart d'heure de lecture qui est souvent mis en place dans les petites classes, en fait, à l'école primaire et parfois au collège. Mais on sait que la baisse de la lecture, elle est encore plus forte chez les adolescents et aussi d'ailleurs chez les adultes. Je pense qu'on en parlera cet après-midi avec le CNL. Et il me semble qu'il y a un enjeu énorme de l'école de remettre en valeur la lecture, d'autant plus aujourd'hui où avec l'intelligence artificielle, on sait qu'il y a un vrai enjeu inquiétant à ce sujet-là.
Merci Agnès. J'extrais un mot, le réenchantement. C'est effectivement une notion qu'on apprécie beaucoup chez Lève les yeux, avec ces exercices un peu de ces expériences de déconnexion, comme vous les faites vivre Eneco. Et alors comment les villes dans leur politique de prévention de la jeunesse, elles peuvent s'emparer de cet outil, de ce dispositif, et proposer dans leurs équipes périscolaires ou autres.
Bien.
Rapidement, s'il vous plaît, parce que...
Il y a de plus en plus de villes qui s'investissent dans le défi 10 jours sans écran. Il y a qu'à voir la ville de Bordeaux, que tu connais, Rachel. Je crois que c'est la ville la plus investie dans ce défi. Il y a chaque année plus d'écoles qui y participent. Je crois que cette année, ils sont partis pour impacter 7 ou 8 000 enfants. Et puis, cette année, ils ont décidé de l'ouvrir aux crèches aussi. Et voilà, je pense que vraiment le défi 10 jours sans écran, même si au départ c'est fait pour qu'une école puisse se mobiliser avec des petits moyens, je crois que les villes peuvent tout à fait s'emparer de ce dispositif parce que il a de nombreuses vertus. C'est d'abord une action pleinement éducative. On mène une action d'éducation qui dure plusieurs semaines, plusieurs mois. Jacques Brodeur disait que le défi mériterait le label haute qualité éducative, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il disait. C'est aussi une action de prévention, de santé physique, santé mentale, autour de la question du temps passé devant les écrans de loisirs. C'est aussi une action de soutien à la parentalité, que ça soit au niveau des crèches ou que ça soit au niveau des écoles ou des collèges. Je disais tout à l'heure, les parents ils se sentent soutenus dans leur rôle éducatif, et il y a vraiment une action de soutien. Souvent les défis 10 jours sans écran ils sont soutenus par les CAF dans ce cadre là et voilà. Et puis il y a de nombreux cadres qui existent pour les villes pour déployer localement des défis collectifs chez eux, puisque voilà, vous avez les PEDT, les plans éducatifs du territoire, vous avez les contrats locaux de santé, vous avez la politique de la ville et puis toutes les actions de soutien à la parentalité. Vraiment le défi, je crois qu'il peut vraiment s'imbriquer dans tous ces plans-là. Je pense même qu'on peut faire d'une action d'une pierre plusieurs coups. Il y a vraiment, je pense, quelque chose à faire. Il y a une mobilisation qui est croissante autour de ce défi 10 jours sans écran et voilà, je pense que les villes, il faut y aller, quoi. Voilà.
On me fait des signes. Alors, on va bien évidemment vous laisser la parole. Vous avez sûrement des questions, peut-être des remarques ou des propres témoignages à apporter. On vous écoute.
Bonjour à tous. En fait, je voulais parler de la pression sociale, notamment avec Attentive Génération. Vous parliez d'un seuil à partir duquel c'est difficile de gérer cette pression sociale. Donc moi, mon fils, il est en 5e, il n'a pas de smartphone, et c'est le seul de sa classe à ne pas avoir de smartphone.
Comment il le vit ?
Je lui dis qu'il fait plein d'autres choses que les enfants ne font pas, donc j'essaye de mettre en valeur les autres activités qu'il fait. Mais comment gérer cette partie-là ? Je vous avoue que c'est ma plus grosse crainte. Je suis venu ici aussi comment gérer cette pression sociale qui existe. Il m'a dit l'autre jour, un de mes meilleurs copains vient d'avoir un smartphone, il est en 6e, c'est le copain qui joue au foot dehors. Donc ils ont passé 3 heures à jouer au foot dehors, et je trouvais ça super beau parce que son copain vient d'avoir un smartphone. Donc comment gérer cette pression sociale pour les parents ? Et j'ai une deuxième question, c'est où vous disiez qu'il ne faut pas mettre trop de poids sur les parents. Mais en réalité, moi ce que je vis, c'est qu'en fait les parents ont fait le choix de donner un smartphone à leurs enfants, et donc moi c'est quand même ce que je subis. Donc peut-être c'est les géants de la tech qui ont généré ça avec l'économie de l'attention, mais les conséquences sont tangibles pour les parents du comportement d'autres parents. Donc voilà, je voulais juste poser ça.
Caroline ? Alors, déjà, bravo pour votre fils, il va vous en remercier un jour. Je ne sais pas où est Laura dont parlait Yves en introduction ce matin, qui est la fondatrice du mouvement aux États-Unis. Sa fille de 15 ans vient de faire un témoignage la semaine dernière qui est édifiant, et puis elle a écrit un texte qu'on espère même traduire en français à bon entendeur, parce que justement cette voix des jeunes qui sont heureux. Alors c'est peut-être pas le cas de votre fils actuellement avec son pote qui vient d'avoir, mais qui sont heureux de pas avoir de smartphone parce qu'ils sont assez conscients, accompagnés par leurs parents ou par de leurs camarades, parce que ça peut être un camarade qui est plus conscient et qui le dit à l'autre aussi. Et donc elle explique à quel point elle est heureuse
ouf, je ne suis pas en prison. Je ne vais pas vivre dans mon téléphone. Bon, donc, votre fils vous remerciera, moi j'en suis sûre. C'est de l'innovation sociale, hein, mais c'est le début, donc c'est difficile. On essaye d'accélérer ça. Moi, je vous inviterai à d'abord parler aux parents de l'ami en question. Parler entre parents, c'est ce que je dis, c'est la première chose, vraiment. Le dialogue, arrêter l'omerta. C'est justement pour faciliter tout ça que l'idée est de faire un parcours, pas avec un événement annuel. Pour l'instant, les écoles, ils se disent, ah, quand même, le numérique, c'est dans nos vies, avec des gens, c'est une déferlante. C'est un sujet tellement immense qu'on devrait presque l'adresser tous les matins. Enfin, c'est, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la journée? Tellement c'est difficile. Enfin, de gérer dans l'état actuel des pratiques. Et c'est pour ça que l'idée d'un parcours où on puisse adresser chaque mois le sujet. Vous voyez, à Noël, je vous donne un exemple, et puis il y aurait trop de choses à dire, et j'ai du mal peut-être à faire passer, c'est le plus important. Mais une des choses qu'on a fait dans le parcours de la vie passe avant les écrans, là, dans le 18e, c'était de parler aux équipes éducatives, de faire une initiative avant Noël qui était de juste prendre une boîte à chaussures, que les élèves la décorent, que tout le temps de décoration de cette boîte soit l'occasion de parler du sujet, et puis qu'à la fin, du coup, il y a une boîte à offrir en famille pour dire on peut mettre les smartphones à l'intérieur. Alors, c'est une boîte à chaussures, il n'y a pas un code, un machin, c'est une boîte à chaussures. Mais chaque enfant, en personnalisant sa boîte, réfléchit au sujet et à ce qu'il va dire. Et donc, d'un seul coup, on s'inspire de ce qui a pu être fait pour le tri sélectif aussi. Hein. C'est les enfants qui ont amené la parole à leurs parents. Donc, parler aux parents et faire des choses avec les enfants qui permettent qu'eux aillent porter la parole aussi. Quoi. Et c'est là où le défi est génial, c'est qu'il y a des parents récalcitrants, hein, on n'en a pas parlé, mais il y en a, enfin nous on en a vu dans les... qui au départ disent, enfin déjà ils n'ont pas envie d'être embêtés dans leur propre pratique, hein, et puis il y a une gêne, on est tous embêtés. Ouais, pardon.
Non, c'est au début, mais après, avec la préparation, tout ça, il y en a beaucoup qui changent d'avis.
Non, bien sûr. Justement, ça porte des fruits. Mais quand c'est les enfants qui invitent et qui sont à l'initiative, voilà, c'est... Voilà, alors j'ai pas la réponse magique pour le cas, mais ouais, vas-y.
Non, et juste de dire, je pense que tout seul, face à la pression, c'est très difficile. Des conseils concrets, moi, je sais pas, je pourrais pas en donner, mais on voit ici qu'il y a... Voilà, c'est l'action collective qui va faire que ça va changer. Je pense que il faut essayer de trouver d'autres parents qui seraient prêts peut-être à s'inscrire sur dans le cadre d'un pacte smartphone, parler du off février, le défi collectif, enfin toutes ces initiatives collectives. Je pense qu'elles peuvent. Je pense que c'est la clé.
Alors une autre question. Est-ce qu'il y a les micros qui sont On vous écoute.
Oui, bonjour. Camille Lalou, moi je suis là en tant que parent. Je fais partie d'un petit collectif où on a monté un pacte smartphone. Je me lève, comme ça vous me voyez. Donc je fais partie d'un petit collectif. Moi, mes enfants sont scolarisés dans une école privée dans le 15e arrondissement. C'était pour témoigner peut-être, pour avoir une petite note positive. Nous, on a commencé en fin d'année 2024, enfin donc au printemps 2024. C'est une école qui va de la maternelle à la terminale. Et en fait, on a vraiment targeté les CM1 et CM2. Et c'est assez génial parce qu'aujourd'hui, on a 60% des 150 élèves de CM2 qui ont signé. Donc on sait que déjà, on s'est dit on ne va pas faire toute l'école, c'est impossible. Mais on sait que l'année prochaine, les 6e, à l'heure actuelle, en 6e, il y a, je crois, quasiment 70% des enfants qui ont un smartphone. Si les parents respectent leur engagement, donc nous on a fait signer juste sur un an et pas sur jusqu'à 15 ans, on s'est dit que c'était plus facile. Mais donc a priori, s'ils respectent leur engagement, l'année prochaine on va tomber de 70 à 40% des enfants qui vont avoir un téléphone.
Oui, tu fais d'année en année.
Oui, on s'est dit on va le faire d'année en année.
C'est une très bonne méthode, ça fait moins peur. Et alors ça me permet de dire bravo déjà.
Alors, je ne sais pas si ça va être une réalité, mais pour l'instant,
ils ont signé. Et puis on l'a vu dans une école du 12e, je sais qu'il y a de deux parents qui sont très moteurs dans le 12e, qui sont là, dont une qui est aussi d'éducation numérique raisonnée, il y a des taux d'équipement tellement différents d'une école à l'autre. Nous, dans le 18e, on a des écoles où il n'y a aucun équipement en primaire, et puis il y a des écoles où il y a 50% des CM1 qui sont déjà dans un arrondissement à côté. Enfin, donc c'est très disparate, et on se rend compte que dès que ça arrive, enfin dès que ça a commencé, ça s'installe. Pardon, dès que le smartphone est là, il s'installe très vite, ça augmente très vite. Et puis il y a des endroits où on ne sait pas pourquoi ça résiste. On manque beaucoup d'études et de choses comme ça sur le sujet, d'où la difficulté aussi de faire quelque chose de national qui soit. Voilà. Mais il est vrai que CM1, CM2, c'est le moment de conscientiser. Après Attentive Génération, donc là, après pas mal de réflexions et donc beaucoup de retours de terrain, on s'est dit, il faut que ce soit sur les 0,25, parce qu'on va parler aux parents. 0,25 ans, c'est l'âge de croissance du cerveau. Enfin, beaucoup d'entre vous ont lu Michel Demurger. Voilà, et donc c'est toute cette période. Si on commence à conscientiser très très tôt, il va y avoir une meilleure pratique dès le début. Et bien, le problème n'est pas que le smartphone, mais c'est autour du CE2, CM1 qu'on doit absolument conscientiser actuellement sur le smartphone. Dans ce que tu dis, Camille, est-ce que tu peux nous dire combien de parents vous avez été au départ ?
Quatre mamans de CM1, enfin l'année dernière en CM1, qui se sont dit on veut pas de smartphone pour nos enfants en 6e. Donc elles ont commencé, elles étaient en fin de CM1, maintenant elles sont en CM2. Moi je les ai rejoints, moi j'ai des enfants en collège, mais du coup je les ai rejoints. Et en fait on a de la chance parce que l'école maintenant aussi nous soutient, l'association des parents d'élèves aussi. Et en fait, je voulais quand même vous poser une question, c'est qu'on veut aller un peu plus loin dans la démarche. Là, on parle des smartphones, mais on est dans une école aussi où, en fait, tous les enfants ont un iPad, dès la 6e. Il y a une réflexion qui est menée au sein de l'école, mais on a été les voir, on leur a demandé concrètement, est-ce qu'on pourrait débrancher l'ENT, comme ce qui a été fait dans le 14e, et bravo d'ailleurs pour ce que vous avez fait. Et en fait, la réponse qu'on nous a donnée, l'école n'est pas forcément contre, mais ils nous ont dit on ne peut pas, parce qu'il y a une obligation de l'éducation nationale d'avoir... alors, je voulais, ma question, c'était ça. Est-ce que c'est vrai? Ils nous ont dit qu'on était obligé d'avoir les notes sur un ENT et qu'on était obligé d'avoir un cahier de texte sur l'ENT. Et que donc, eux, même s'ils étaient volontaires d'éventuellement changer les choses, l'éducation nationale les empêchait de le faire.
Je ne sais pas si c'est vrai. En fait, il y a deux choses. Il y a les comptes élèves et puis l'accès des parents. Donc, il faut dissocier les deux.
C'est l'obligation sur les parents, mais pas sur les élèves.
En fait, les enseignants doivent rentrer, le cahier de texte numérique. Ça ne veut pas dire que c'est le seul support, mais c'est qu'il doit y avoir cette trace-là. Mais ensuite, les élèves n'ont pas l'obligation de le consulter, et au contraire.
Donc c'est pas vrai, en fait, quand on dit ça. Okay. C'est tout ce que je veux.
C'est une déformation de la
réglementation. Okay. Merci beaucoup.
Si je peux juste continuer. Le problème du numérique à l'école, c'est qu'aussi on vient justifier des investissements financiers qui sont énormes. Et nous, on a été confrontés à ça dans les établissements, enfin dans mon précédent établissement, qui avait investi justement dans les tablettes pour chaque élève à partir de la 5e. On se rend compte qu'on a fait une erreur. Souvent, les parents d'élèves sont contre, en fait, parce que ça vient créer un foutoir dans les familles très très compliqué, aussi pour la question du contrôle parental sur les outils donnés par l'école auxquels les parents n'ont pas accès. Et c'est très compliqué de revenir en arrière sur l'équipement parce que la logique financière est là. Et donc on se retrouve dans une situation absurde où en fait les choix pédagogiques passent derrière cet investissement financier.
Merci beaucoup. Pour les questions, je suis vraiment navrée, mais on ne va pas pouvoir prolonger. Par contre, on arrive à une pause. Donc si vous souhaitez continuer à échanger avec nos intervenants. Et juste peut-être un tout dernier mot de la part de Diego sur le Off February. Mais alors 10 secondes.
10 secondes, c'est juste vous mettre tous à contribution si vous le souhaitez, parce qu'on a dit qu'il faut du collectif. On a un stand en bas, on a des flyers, on a des façons aussi de convaincre des espaces partenaires. On peut vous raconter tout ça plus en détail en bas. Et sinon, allez sur notre site off-february.fr. Merci beaucoup.
Merci. We'll be right back.
chance and I let it go. I had my chance and I let it go. Well, if I ever have myself another chance like that, I'm gonna grab it and I won't look back. I'm gonna grab it and I won't look back.
Pasaron como el cielo encendido.